Pour que nature vive.
Pour que nature
vive. Pour que nature vive.
Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète.
Le vivant et notre planète.
Série spéciale Océan. Une odyssée avec les scientifiques du Muséum. Comment les polluants atteignent l'océan et sa biodiversité ? Avec Jean-Baptiste Fini.
Tout ce qui pollue l'océan n'est pas directement jeté dedans par des gestes malveillants. Nombre de polluants parcourent des centaines de kilomètres pour finir dans l'océan avec de dramatiques conséquences pour la biodiversité, comme va nous l'expliquer Jean-Baptiste Fini, biologiste, spécialiste des perturbateurs endocriniens et professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour.
Bonjour.
Alors, il y a certains phénomènes naturels qui peuvent être source de pollution dans l'océan, hein, mais la majorité ce sont les polluants anthropiques, aux origines et natures très diverses, qui sont vraiment menaçants pour le vivant marin. Est-ce que pour commencer, vous pouvez brièvement nous dresser une typologie des différentes formes de pollution qui finissent dans l'eau?
Oui, donc nous avons l'origine naturelle, comme vous l'avez mentionné, c'est-à-dire des éruptions volcaniques sous-marines qui vont altérer forcément la biodiversité dans un moment très court. Mais finalement, après 3 ans, par exemple, si on prend l'éruption d'El Hierro en 2011 dans les Canaries, vous avez une biodiversité qui a repris le dessus et donc on a même un booster de biodiversité après ces éruptions volcaniques. L'ensemble des autres pollutions sont plutôt d'origine anthropique. Et quand on parle d'acidification des océans ou même de réchauffement des océans, ces deux phénomènes qui ont l'air naturels, finalement, sont aussi d'origine anthropique puisque c'est dû à une surproduction de CO2 qui va être recaptée par les océans et qui va provoquer, donc, pour l'acidification, une baisse des crustacés parce qu'on va avoir moins de calcaire, finalement, et puis le réchauffement climatique qui va, petit à petit, provoquer plus de cyclones. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce réchauffement, finalement, quand on regarde le dernier rapport du GIEC, on a plus 1,1 degré sur l'ensemble de la surface de la Terre depuis plus d'un siècle. Et on attribue à l'homme 97% de cette augmentation. En plus, finalement, de nos activités, on a nos déchets qui se retrouvent dans l'océan, avec des millions de tonnes par an qui vont se retrouver dans la nature. Et donc, par le jeu des rivières, des lessivages des sols, on va se retrouver avec donc des macro-déchets plastiques qui se voient. Et tous les intrants chimiques qu'on va utiliser dans l'agriculture, ou même finalement nos produits cosmétiques qui vont se retrouver dans les rivières, qui ne vont pas forcément être filtrés et qui peuvent se retrouver également dans l'océan.
Pour reprendre ce que vous disiez, que quand il y a une éruption volcanique, il y a une déperdition de biodiversité, mais elle ne dure que quelques années. Tous les polluants anthropiques, eux, en revanche, ils ont une durée de vie beaucoup plus longue.
C'est le problème, c'est que vous avez différentes catégories de produits chimiques et puis on les catégorise un peu selon justement leur persistance. Vous avez les non-persistants, donc par exemple le bisphénol A qui est utilisé dans la composition des plastiques, lui, à l'état finalement de monomère, hein, si vous imaginez un polymère comme une chaîne, eh bien le bisphénol A, c'est un maillon de cette chaîne. Celui-là, il va avoir une demi-vie, donc le temps qu'il va falloir à l'organisme pour éliminer la moitié de ce produit-là est assez court, c'est quelques heures. Mais vous avez d'autres produits comme le pesticide DDT qui a été épandu après la Seconde Guerre mondiale pour éradiquer certains moustiques. On en a toujours des traces à l'heure actuelle dans notre sang, donc humain, mais aussi tous les poissons, les zooplanctons qui peuvent aussi vivre dans l'océan ont du DDT et en tout cas le métabolite.
Donc il y a une persistance à minima en décennies, mais voire en siècles, et c'est d'autant plus inquiétant que les polluants et leurs molécules ont trouvé un moyen de dispersion naturelle dans l'océan que vous appelez biomagnification. Alors est-ce que vous pouvez expliciter ce phénomène peu connu du commun ?
Alors finalement c'est un anglicisme, biomagnification. On parle en France de bioaccumulation et de bioamplification. Donc la bioaccumulation, il faut voir ça comme une accumulation au sein d'un individu. Donc ça c'est ce qui va se passer à l'échelle de chaque étape des organismes. Donc le zooplancton, le petit poisson, le plus gros poisson et puis finalement le prédateur en fin de chaîne, donc soit un ours, un orque ou même l'homme qui va pêcher le poisson. Et donc on va avoir une accumulation qui va se faire préférentiellement notamment pour la plupart des polluants dans les graisses. Pourquoi ? Parce que finalement, ces produits persistants, la méthode qui est utilisée par l'organisme pour se détoxifier, c'est d'empêcher ces molécules chimiques de circuler au sein du vivant et donc de le stocker dans les graisses. Le fait est que plus on va augmenter le niveau de chaîne trophique, donc c'est-à-dire le niveau dans notre chaîne alimentaire, et plus on va avoir de nombreuses graisses à manger. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec une bio-amplification au fur et à mesure de la chaîne trophique, puisqu'on va se retrouver à manger des poissons qui sont de plus en plus contaminés, parce qu'ils ont de plus en plus de graisse, et donc avoir à la fin une contamination qui est beaucoup plus massive que celle qui était à la base dans l'eau.
Comme on peut remonter l'intégralité de la chaîne alimentaire jusqu'à l'homme, et pour faire comprendre à tout le monde comment ça s'est passé, on va s'inspirer de quelque chose qui est arrivé dans les années 1960 à Minamata au Japon. Et est-ce que vous pourriez narrer cette anecdote et expliquer comment est-ce qu'on a remonté la chaîne de contamination ?
Minamata, donc c'est une baie au Japon où on a dans les années 30 une industrie qui va utiliser du méthylmercure mais d'autres métaux pour un procédé de catalyse de réaction chimique, et ils vont commencer à déverser les produits dont le méthylmercure dans l'eau de la baie dans les années 30. Et dès 1949, vous avez des personnes qui commencent à avoir des symptômes, en fait, donc perte de mémoire, changement de personnalité, et surtout les travailleurs ou alors les pêcheurs, les familles de pêcheurs. Il y a un déchet chercheur de l'entreprise qui commence à s'interroger sur ce méthylmercure et les effets neurotoxiques, et il peut montrer qu'il y a d'autres animaux qui sont aussi impactés, ce sont les chats qui deviennent complètement fous et qui se jettent même à la mer dans le port de Minamata. Et donc pendant une dizaine d'années il a eu du mal à se faire entendre, et puis finalement l'entreprise a été condamnée, donc ils ont arrêté de déverser ce méthylmercure dans l'eau. Mais on voit que finalement il y a eu une accumulation de ce méthylmercure au cours de la chaîne trophique. L'homme était le dernier maillon de la chaîne, et principalement les pêcheurs qui, eux, étaient même devenus fous.
Et pour reprendre ce que vous disiez précédemment, est-ce que le fait qu'une entreprise soit contrainte d'arrêter de déverser des polluants, est-ce que ça veut dire que l'eau en baie de Minamata, quelques mois après, était baignable et buvable sans danger ?
Non, là vous abordez un problème, c'est la persistance justement, et puis la responsabilité des entreprises. Parce que là on estime qu'entre donc, 1930 et 1966, hein, les déversements se sont faits jusqu'en 1966, il y a eu 400 tonnes de mercure qui ont été déversées dans la baie. Et donc il y a eu une interdiction de pêcher pendant un petit moment, et puis on a commencé à partir de 1966 à détoxifier les sols, parce qu'il y a l'eau, il y a aussi la biodiversité, mais il y a aussi les sols des océans qui avaient été pollués. Et on n'apprend pas forcément de nos erreurs, parce que le méthylmercure est toujours utilisé actuellement par les orpailleurs, donc que ce soit dans certains pays en Afrique ou en Guyane française, où on va utiliser ce mercure pour capter l'or, mais les déversements sont massifs dans l'océan. On a un exemple aussi en France, hein, avec un produit chimique qui avait été déversé dans une rivière. Finalement, l'entreprise fait faillite et la responsabilité incombe à la collectivité de réparer ces effets qui sont médiés par une entreprise, mais finalement dont les conséquences sont sur la biodiversité, donc là, des rivières, mais les rivières se jettent dans la mer.
Alors venons-en à votre spécialité, les perturbateurs endocriniens. Dans un épisode précédent de ce podcast, vous nous aviez expliqué l'impact qu'ils avaient notamment sur le cycle reproductif des crocodiles du Nil. Or, il se trouve que des perturbateurs endocriniens arrivent dans les océans, aussi ceux qui sont issus des pesticides, et là aussi ça provoque des dérèglements hormonaux chez nombre d'espèces, et avec un impact extrêmement global sur les écosystèmes. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ?
Oui, donc un perturbateur endocrinien est une molécule qui va brouiller un message chimique. Et ce message chimique, le messager, c'est l'hormone. Les produits chimiques qu'on utilise, que ce soit des pesticides ou même d'autres produits, vont perturber un peu cette communication-là. Et donc, je vous avais parlé du DDT et donc les micropénis des alligators. Et donc, on avait vu que certains pesticides pouvaient impacter la reproduction parce que ça mimait des hormones féminines. Ces effets-là sont légions, en fait, on en a plein. Les composés qui sont dans le plastique vont se retrouver également dans l'océan, et on a des effets qui vont impacter la reproduction. Donc ça, c'est visible sur certaines espèces qui sont même très loin du site de production, hein, puisqu'on va avoir une diffusion comme on l'a expliqué précédemment. Et puis on a certains pesticides qui vont avoir des effets inattendus. Par exemple, le chlorpyrifos qui était utilisé dans les années 2000 sur les céréales, sur les oranges, sur les épinards en Europe ou aux États-Unis a été donc depuis interdit. Et donc il était utilisé, mais on avait vu des effets un peu neurologiques chez les enfants qui vivaient aux alentours des orangeraies, par exemple en Floride. Mais en fait, on a aussi vu dans les baies en Polynésie française l'impact que ça pouvait avoir sur le poisson chirurgien. Le poisson chirurgien, c'est un poisson qui a besoin de l'hormone thyroïdienne, donc c'est une hormone qui est produite par la thyroïde et qui va lui permettre de maturer. Et un poisson chirurgien mature, c'est un poisson chirurgien qui va pouvoir brouter les algues, et ces algues ne vont pas envahir les coraux et donc provoquer leur mort. C'est le professeur Vincent Laudet à Banyuls qui a pu montrer que la diffusion et l'utilisation du chlorpyrifos sur Terre impactaient la maturation de ces poissons chirurgiens qui n'étaient pas matures, qui ne pouvaient pas brouter les algues, et les algues qui, du coup, proliféraient et provoquaient la mort des coraux.
Au-delà du cas du poisson chirurgien, est-ce qu'on a idée d'autres espèces animales ou végétales qui seraient menacées par les perturbateurs endocriniens ?
Ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne sait pas tout des hormones. On ne connaît pas la fonction des hormones chez toutes les espèces. Donc il faut avoir conscience que les hormones sont conservées parmi les vertébrés. On a les mêmes hormones que le cheval, que le chien, que le poisson. Chez les insectes, on a aussi des molécules qui ressemblent à nos hormones et qui donc jouent le rôle de messagers chimiques. En 2021, par exemple, l'hormone thyroïdienne dont on vient de parler a été montrée comme étant primordiale dans l'apparition des bandes qui sont sur les flancs des poissons clowns. Et donc, si vous avez beaucoup d'hormones, vous allez avoir jusqu'à 3 bandes blanches chez le poisson clown. Si vous n'avez pas du tout d'hormone thyroïdienne, vous avez un poisson clown sans bandes. Donc c'est assez intéressant de voir qu'au sein des espèces marines, on a sûrement des effets insoupçonnés de ces hormones. Et donc, les produits chimiques qui impactent nos hormones, mais aussi les fonctions inconnues de celles des poissons, forcément on a un impact qui est vraiment global. Et donc quand on parle de One Health, une santé, on a vraiment un impact sur l'homme, la biodiversité, mais aussi la biodiversité qu'on ne voit pas, celle dans les océans.
Je vous renvoie à l'épisode que nous avions réalisé avec Coralie Martin sur cette notion de One Health. Pour terminer tout à fait, là vous venez de nous parler de réactions en chaîne, mais il y a aussi les effets cumulatifs qui sont liés au réchauffement climatique, dont vous venez de rappeler qu'il est à 97% le fait de l'homme. Donc c'est pas le moment de se détourner de notre responsabilité collective. Qu'est-ce que le réchauffement climatique fait sur les polluants en mer ?
Le réchauffement climatique est un des paramètres finalement de notre exposome. On parle d'exposome maintenant pour dire l'ensemble des choses qui vont modifier une trajectoire de notre vie. Donc ça peut être par exemple pour un homme, s'il fume, s'il boit, s'il va vivre à côté d'un champ où on épand des pesticides. Bien là, en fait, pour un poisson, ça pourrait être la trajectoire. Est-ce qu'il va être exposé à des microparticules plastiques ? Est-ce qu'il va avoir un intrant chimique ? Est-ce que l'augmentation de la température de l'eau va aussi impacter son devenir ? Et il y a des travaux encore de Vincent Laudet qui montraient que le chlorpyrifos allait impacter finalement la survie des poissons chirurgiens face à un prédateur, le vivano, donc un poisson. Quand on met donc ce pesticide, on a un abaissement du taux de survie, mais on peut aussi, sans mettre de pesticide, avoir exactement le même effet en augmentant l'eau d'un degré. Donc, c'est-à-dire que là, on a deux effets qui sont comparables. Donc vous imaginez, si on met les deux effets en même temps, on ne sait pas ce que ça fait. En fait, on a cette interrogation. Donc on a cet effet cocktail dont on parle. Quand on étudie des molécules chimiques une par une, on peut avoir un effet de plusieurs molécules en même temps, mais on peut aussi avoir les effets cumulés de tout ce qui fait notre exposome. Donc là, par exemple, pollution chimique plus réchauffement climatique.
Voilà, c'est aussi passionnant que terrifiant parce que nous ne savons pas ce que nous faisons, donc d'où l'urgence d'arrêter de polluer les océans. Merci infiniment Jean-Baptiste Fini.
Dans cet épisode, vous venez d'écouter Jean-Baptiste Fini, biologiste, spécialiste des perturbateurs endocriniens et professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, interviewé par Vincent Hédin. Pour que nature vive. un podcast produit par le Muséum National d'Histoire Naturelle et Création Collective, avec le soutien du Crédit Agricole et de la Financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée « Pour que nature vive » qui a inspiré le titre de ce podcast. «